Bienvenue à l'Église Nouvelle Vie, bienvenue à la deuxième partie de notre série du printemps ici à Nouvelle Vie pendant le mois de mai, le mois de juin. On a commencé une série la semaine dernière, le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Notre série est intitulée « Les quatre grandes promesses de la résurrection ». Je vais vous saluer, vous, ici à Nouvelle Vie et tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes, sur les médias sociaux et en particulier sur Facebook Live. Je vous dis souvent qu'on reçoit des courriels d'un peu partout à travers le Québec, à travers la francophonie. J'en ai reçu un ce matin qui m'a fait sourire. Je l'offre à l'équipe de Facebook Live, l'équipe des médias qui travaille si fort. C'est notre ami Pascal, qu'on connaît bien, qui est un jeune entrepreneur. Il écrit « Bonjour, Pasteur Claude. Présentement, je suis en voyage d'affaires en Chine. Je suis à Ningbo, en Chine, à plus exactement 11 524 km de Montréal. Merci à toute l'équipe Nouvelle Vie. C'est formidable de suivre les réunions live. J'étais super touché aujourd'hui. Alors, jusqu'en Chine, il y a des gens qui suivent Nouvelle Vie ce matin. Et vous savez, il y a des gens qui travaillent à chaque semaine pour faire le Facebook Live. Est-ce qu'on peut les remercier, tous les bénévoles Facebook Live? Et aussi, vous annoncez, c'est un dimanche historique parce que vous savez que nous avons 6 réunions par week-end et maintenant Nouvelle Vie, bien sûr, en Nueva Vida le samedi soir, jeune adulte, le vendredi soir à Nouvelle Vie en multisite à la Prairie également. Et nous avons commencé ce matin du 28 avril 2019 une première réunion dans la ville de Drummondville. Nous avons un groupe de personnes qui viennent de Drummondville, c'est une heure de route et plus à chaque dimanche et qui ont une vision pour cette ville, pour le centre du Québec. Et ce matin, l'équipe Nouvelle Vie est là-bas, c'est tout neuf. Et Pasteur Marc est là-bas avec l'équipe de musique, de louanges et également l'accueil, les ministères pour les enfants qui sont là-bas. Et on veut commencer une fois par mois à tout préparer pour une implantation de Nouvelle Vie à Drummondville pour 2020. Et je veux vous annoncer que ce matin, en ce moment même, à Drummondville, ils sont à la première réunion. Ils sont près de 200 personnes. Première réunion à Drummondville. La plus grande église de Drummondville et Nouvelle Vie, alors qu'on n'a pas commencé encore. Alors, ce matin, il y a des gens partout de la région de Drummondville et ce matin, ils vont voir cet extrait aussi. Alors, est-ce qu'on peut saluer Nouvelle Vie Drummondville ce matin? Alors, pousser un cri. Nouvelle Vie Drummondville 2020. Les quatre promesses de la résurrection, parce que la résurrection, nous sommes la semaine après Pâques. Mais la résurrection, Pâques, ce n'est pas un événement une fois par an, c'est plus qu'une fois par an, c'est plus que du chocolat, c'est pas un rituel religieux. Je suis tellement content de vous voir par milliers dans ce lieu ici ce matin, la semaine après Pâques, parce que dans des centaines d'églises dans cette province, dans notre nation, il y aura des gens qui seront allés le dimanche de Pâques et qu'on verra, que personne ne va revoir jusqu'à l'an prochain. Pâques n'est pas quelque chose, n'est pas une commémoration qu'on vient faire une journée dans l'année, un rituel du passé. C'est plus, même pour nous, comme croyants, nous savons que la résurrection, c'est notre salut. C'est littéralement qu'en venant à Jésus, le Seigneur nous donne cette résurrection de vie ici. Mais c'est aussi, il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'est tellement émouvant pour lui, de perdre un être cher, mais qui connaissait le Seigneur. Il y avait cette consolation extraordinaire. Est-ce que vous savez, comme croyants, que la résurrection, c'est aussi le fait que la mort est vaincue pour nous? Un croyant, un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, qui a accepté le sacrifice de Jésus pour lui, pour elle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va naître deux fois et qui ne mourra jamais. Nous naissons physiquement, nous naissons spirituellement et nous ne mourrons jamais le jour où cette enveloppe s'éteint, absent du corps, présent avec le Seigneur. La mort est vaincue. Rien ni personne ne pourra vous séparer de Dieu. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Voulez-vous applaudir la résurrection dans votre vie, présente et pour toujours? Mais la résurrection, c'est plus que mon salut, c'est plus que ma sécurité éternelle devant Dieu. La résurrection, c'est une invitation à une expérience à chaque jour de ma vie. C'est pourquoi, le matin de la résurrection, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, le ciel a déclaré, le ciel a invité, il nous invite aujourd'hui, à venir, entrer et voyez le lieu. Il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, entrez, voyez. Venez entrer et voyez, venez expérimenter la résurrection. La résurrection, c'est la compréhension que si nous ouvrons nos vies à Dieu, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en nous et il nous redonnera la vie. Il vient donner vie à chaque aspect en nous qui aurait pu s'éteindre. Dans les mots de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4, notre foi en est une qui appelle à l'espoir là où il n'y avait pas d'espoir, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui appelle à la vie ce qui était mort. Pensez-y littéralement. Depuis que vous connaissez et marchez avec le Seigneur, toutes les choses que de mois en mois, d'année en année, de décennie en décennie, pour sortir d'entre nous, toutes les choses que Dieu a ressuscitées en nous. Une saison de tempête, une saison de souffrance ou de déception. Il y a des choses qui sont... Il y a des jours, on a tous vécu des jours, on ne sait même pas si on va sourire à nouveau. On ne sait même pas si on va être capable de passer à travers. Mais Dieu est le Dieu de la résurrection. Combien ici peuvent le témoigner? Ça va encourager quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il a ressuscité ma joie. Il a ressuscité ma foi. Il a ressuscité mon avenir. Il a ressuscité ma confiance en l'avenir. Ma capacité de croire, d'aimer, de marcher, de servir. Voulez-vous applaudir la résurrection avec moi? Nous avons appelé cette série « Les promesses de la résurrection », les quatre promesses de la résurrection. La résurrection, parce que la résurrection active les promesses de Dieu. Il y a plus de 2000 promesses de Dieu dans la Bible, littéralement, des, entre guillemets, des chèques en blanc à lesquels Dieu veut écrire votre nom, il veut écrire la date d'aujourd'hui, et il veut écrire le montant, la somme de bénédiction que vous avez besoin pour rencontrer quelque chose qui t'appartient à toi seulement. Et ces promesses sont activées par la résurrection. C'est pourquoi le psalmiste a écrit notre témoignage à tous. Psaume 138, « Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Et ça, c'est comme ça que l'Évangile de Jésus-Christ a changé la terre. Car ta renommée, Seigneur Jésus, s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alors que des êtres humains de toutes les nations, de toutes les époques, ont expérimenté et ont dit, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. » Tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. C'est ce qui rend le christianisme inarrêtable. C'est ce qui rend le christianisme invincible. Depuis 2000 ans, des empires philosophiques, militaires et autres, religieux surtout, ont essayé de faire disparaître le christianisme. Il y a beaucoup, vous allez lire beaucoup d'articles ces jours-ci, ces temps-ci, sur l'islamophobie, par exemple. Et nous sommes contre toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Mais on entend très peu parler d'une réalité à travers le monde, à tous les jours en 2019, la christianophobie. Des églises, lorsque vous avez vu, les gens sont tous sous le choc, lorsque vous avez vu au Sri Lanka les églises chrétiennes être ciblées par les islamistes radicaux, ça prend place à chaque jour dans le monde. Depuis 2000 ans, on essaie de faire disparaître le christianisme. Il y a quelque chose qui fait que le christianisme est différencié de tout autre mouvement. Tu peux incendier le bâtiment, tu peux essayer par des lois d'essayer de les lier, mais l'être humain peut encore simplement crier à Jésus et sa renommée se répand et se répand et se répand parce qu'il est le Dieu de la résurrection et il répond à ses promesses. Je t'ai invoqué, tu m'as entendu, tu m'as fortifié et tu as restauré mon âme. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Si vous l'avez vécu, dites amen dans ce lieu ce matin. C'est littéralement la promesse de la résurrection et un des symboles pour les promesses de Dieu dans la Bible, c'est les coupes de ses promesses. Je vais l'expliquer dans un instant. Et le psalmiste disait, « J'élèverai les coupes de sa vie abondante et de ses promesses. » C'est pour ça que Jésus a pris la communion, la Sainte Cène que nous commémorons. Il a pris de même la coupe après avoir soupé. Il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est offerte pour vous. » Jésus a littéralement dit, vous allez savoir faire partie de votre expérience chrétienne. Vous allez vous arrêter dans le tourbillon de vos vies parce que vos cœurs, pour rappeler à vos cœurs oublieux qu'à travers cette coupe, je vous rappelle que je suis celui qui fait la promesse. Je suis le Jésus de l'Alliance. Et alors que toutes les alliances humaines peuvent être brisées parfois et nous décevoir et nous déchirer, il est celui qui est fidèle à accomplir son alliance. Lorsqu'on parle des quatre promesses, des quatre coupes de la promesse, c'est quelque chose de très spécifique, d'historique et de biblique. Lorsque je suis allé, j'ai eu le privilège d'aller en Israël plusieurs fois et pour aller prêcher, pour aller enseigner, mais aussi visiter, apprendre, des voyages d'études. Et j'ai eu le... lorsque tu vas visiter Israël, tu vis ces moments où il y a toutes sortes de traditions qui vont circuler, mais là, tu as un guide, un expert qui te rappelle des choses que tu... et même que tu apprends des choses que tu ne savais pas. Pour nous, la communion, le repas du Seigneur, c'était une coupe. Mais je me souviens il y a plusieurs années comment le guide nous expliquait, et c'est quelque chose qui est avéré, validé depuis que tous les Pâques que je vis, la Pâque, c'est une célébration dans le calendrier de la foi dans l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on s'arrêtait pour remercier Dieu qui nous a sortis, qui nous a sortis de l'esclavage pour les faire entrer dans ce que Dieu avait pour eux. Et c'était célébré. Dieu a dit, vous allez faire un repas. C'est quelque chose qui va être chaleureux, qui va être personnel. Et il ne va pas y avoir seulement une coupe, il va y avoir quatre coupes. Parce que chaque coupe va représenter une de mes promesses. Et ces quatre grandes sphères de promesses, sous ces quatre grandes déclarations de Dieu, ce sont les quatre grandes déclarations, intentions de Dieu, désirs de Dieu pour chaque, pour l'épanouissement, l'accomplissement, l'épanouissement, la libération et le développement de la vie abondante que Dieu a pour chaque être humain. Et Dieu a institué 1500 ans avant Jésus-Christ, et tout ça s'est accompli par la résurrection de Jésus, mais a institué dans Exode chapitre 6, versets 6 et 7, voici le verset. Et aujourd'hui, et la semaine dernière, et à travers les années, lorsqu'on célèbre la Pâque partout à travers le monde, il y a encore ces textes-là qui sont, ce texte-là et ces quatre promesses qui sont rappelées avec les quatre coupes qui sont partagées, expliquées ensemble. Dans Actes 6, 6 et 7, les quatre promesses de la résurrection qui englobe toutes les 2000 promesses de Dieu dans ses quatre grandes intentions de Dieu. Actes 6, 6 et 7. C'est pourquoi je dis à tous les enfants d'Israël, c'est ce qui va être lu au repas de Pâques. Je suis l'Éternel. Première promesse, je vous libérerai des fardeaux dont vous chargent les oppresseurs. Deuxième promesse, je vous délivrerai de tous vos liens. Troisième promesse, je vous ferai connaître votre destinée en moi par mon bras puissant qui est tendu vers vous. Et quatrième promesse, je vous prendrai pour mon peuple et je vous ferai entrer et posséder le pays de la promesse. C'était quelque chose qu'on doit s'arrêter, ne jamais les oublier, ne jamais les prendre pour acquis, ne jamais les réduire, les promesses de Dieu, à un rituel du passé. Ce n'est pas un rituel du passé, c'est plutôt des réalités spirituelles et réelles à posséder. Et c'est des révélations à poursuivre. Et chaque coupe représente une dimension de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Une promesse de découverte, une promesse de délivrance, une promesse où Dieu va accomplir notre destinée afin que nos vies fassent une différence. C'est littéralement le désir de Dieu que chaque croyant puisse dire « je découvre le désir de Dieu » de me délivrer de tout ce qui m'empêche d'accomplir ma destinée afin que ma vie puisse faire une différence. C'est les quatre coupes des promesses de Dieu. Et ce matin, et dans le prochain message, on va commencer, pendant tout le mois de mai, tout le mois de juin, on va explorer ces quatre coupes ensemble, on va s'en emparer ensemble. Mais ce matin, nous allons regarder à ce qu'on appelle la coupe de la découverte. La découverte de notre appel, de notre appel en Dieu. Lorsqu'ils ont célébré la Pâque et célébré cet événement historique où ils ont été libérés, sortis d'un Égypte qui les gardait captifs de captivité et d'esclavage pour entrer dans la terre promise. Dieu dit, ce n'est jamais été mon intention. Et tous ces événements de l'Ancien Testament représentent ce que Jésus veut faire pour nous. Représente que je suis sorti, veut me sortir d'une vie passée pour entrer dans une vie libre qu'il a maintenant pour moi. Un baptême d'eau, c'est un moment la symbolique du baptême d'eau pour des adultes, pour des gens qui comprennent ce qu'ils font, déclarent leur foi. C'est je meurs à la vie passée, à l'Égypte du passé, et j'entre maintenant dans la vie abondante que Dieu a pour moi. Et ça n'a jamais été l'intention de Dieu que nous sortions d'une vie passée, que votre position devant Dieu change parce que vous êtes devenu chrétien, mais que rien d'autre ne change. Et que sortir de là pour ne rien faire, sortir de là pour ne rien être, sortir de là pour l'oisivité ou la passivité ou pour simplement aller vers d'autres idoles. Ça, en d'autres mots, Dieu veut plus pour toi que tu sortes de l'Égypte. Il veut sortir l'Égypte de toi. Faire entrer dans la vie abondante qu'il a pour nous encore aujourd'hui. Il veut que chaque personne dise, je découvre que le désir de Dieu est de me délivrer afin que je puisse accomplir ma destinée et que ma vie puisse faire une différence. Et ce qui est extraordinaire dans cette promesse de découverte de la destinée de Dieu pour nous. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui-même dit, « Je sais qu'il va y avoir des saisons dans ta vie où même on combat pour même croire encore que le désir de Dieu est de me libérer. » Il y a quelque chose qui s'accroche depuis tellement longtemps, ce qui m'arrive est tellement souffrant, tellement douloureux, tellement décevant que parfois, chacun d'entre nous a eu des saisons où je doute même. Et pour aller un peu plus loin, si on est vraiment honnête, il y a même des saisons où le désir n'est pas là. Vous dites peut-être que c'est vrai que Dieu a un désir pour moi, mais moi, là, j'ai plus le goût. J'ai perdu la force, j'ai perdu la motivation, j'ai perdu la flamme d'aimer, de pardonner, de rebâtir, de croire. J'ai perdu la force de condamner ou de Dieu dire, ah, ben, tu n'as même pas la force, tu n'as même pas le désir de. Non, non, non. Dieu sait. Dieu, il vient à l'endroit de notre faiblesse. Et dans Philippiens, il le décrit de cette façon. C'est tellement magnifique. Philippiens 2, 12 et 13. Car Dieu désire être à l'œuvre en vous par la puissance de sa résurrection afin de vous donner le désir, la capacité d'être et de faire. D'être et de faire. On ne peut pas faire avant d'être. Et quelle promesse! Dieu dit, moi, je vais même ressusciter en toi le désir, la capacité d'être et de faire ce qu'il vous a créé pour accomplir. Quelle grande résurrection! Quel grand Dieu! Il nous donne, pour ceux qui le recherchent, pour ceux qui le demandent, il nous donne le désir d'être. D'être. Je ne l'avais pas, mais Dieu va me le donner, je lui demande. Il me donne, me redonne le désir d'être le mari, d'être l'épouse, d'être le père, la mère que Dieu voulait que je... D'être honnête, d'être vrai, d'être intègre, d'être libre. Des fois, j'ai même plus le désir en moi-même. Le désir de faire, la capacité divine. Littéralement, la capacité d'aimer, la capacité de pardonner, la capacité de croire à nouveau, la capacité de rompre et de briser des cycles qui sont de cercles vicieux dans nos vies, des cycles qui sont empoisonnés, qui sont toxiques pour nous, des relations qui nous tirent vers le bas, des dépendances qui semblaient dominer sur nous. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, penche pas la tête en disant « j'ai même pas le goût ». Lève la tête et dis « Seigneur, viens me donner le désir, viens me donner la volonté, viens me donner à chaque jour la capacité de tes désirs. » Quelqu'un devrait dire oui, il va le faire. Il va le faire. Et lorsqu'on pense à découvrir ensemble, aujourd'hui, nous allons regarder à découvrir l'appel de Dieu. Littéralement, découvrir l'appel de Dieu sur chacun d'entre nous. Et dans la pensée divine, l'appel de Dieu n'est pas seulement pour pasteurs ou pour des gens qui ont un ministère vocationnel ou qui sont sur une estrade ou qui enseignent la Bible. Chaque croyant a reçu un appel de la part de Dieu, quelque chose que seulement toi, tu peux accomplir. Il y a un appel. C'est pour ça que plusieurs des épîtres commencent avec des mots comme 1 Corinthiens 1 et le verset 2 au tout début de sa lettre. L'apôtre Paul dira, à l'Église de Dieu, l'Église, c'est pas les bâtiments, c'est vous, c'est les pierres vivantes. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, qui est une grande église comme la nôtre, de plusieurs milliers de personnes, de tous les arrière-plans possibles, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, vous êtes appelés. Chaque personne est appelée à être saint et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur qui est aussi le nôtre. Laissez-moi expliquer le mot saint pendant un instant, parce que c'est un mot qui a été galvaudé au fil des siècles. Lorsque la Bible parle, lorsqu'on a traduit en français, chaque personne est appelée ici à être un saint. Le mot saint veut simplement dire, dans le grec original, séparé, mis à part, changé, littéralement nettoyé, sanctifié. Il a été mis à part pour une œuvre spéciale que Dieu t'a appelé à accomplir dans la pensée biblique. Les saints ne sont pas canonisés après leur mort. Tu ne deviens pas saint canonisé après ta mort. Les saints ne sont pas canonisés après dans la pensée biblique. Les saints sont convertis pendant qu'ils sont vivants. Ils viennent à Jésus et ils viennent aptes à accomplir ce que Dieu les appelle à faire. Alors, chaque personne ici, appelée par le Seigneur, est un saint homme, une sainte femme. Alors, faites ceci, que vous appeliez Claude ou Jacqueline ou Georges-Marie. Tournez-vous à la personne près de vous, serrez-lui la main avec un grand sourire et dites-lui, je dois me présenter Saint-Claude. Alors, je vais me présenter. Que tous les saints non canonisés, mais convertis avec un cœur pour Dieu disent amen, tous les saints. Vous êtes tous appelés. Chacun d'entre nous appelé. C'est une des atrocités, une des aberrations historiques du monde ecclésiastique. en voulant dominer les gens, en voulant contrôler sur eux, en voulant élever une catégorie de clergé au-dessus de laïcs et ainsi avorter l'appel des gens. Dans la pensée biblique, que ce soit la version catholique romaine ou que ce soit la version évangélique où il y a des pasteurs qui font le ministère et les gens qui les regardent faire, les appeler et ceux qui regardent les appeler, c'est absolument l'inverse du message biblique. Dans la parole de Dieu, Éphésiens nous dit, il a donné les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les apôtres, tous les ministères sont là pour vous équiper, afin de vous développer, afin que vous accomplissiez l'appel de Dieu qui est sur chacune de vos vies. C'est ça notre mission. Alors ce matin et dans le prochain message, nous allons regarder ensemble découvrir notre appel. On va le mettre très personnel, mon appel comme chrétien, mon appel à la croissance, mon appel à communiquer et mon appel avec ma carrière. Et ça va être très, très important parce que pour ceux que vous soyez aux études ou que vous soyez en plein dans le développement de votre carrière ou que vous soyez à l'aube de la retraite ou à la retraite, ne manquez pas le prochain message parce que vous allez découvrir que Dieu a une intention divine, découvrir son appel à travers notre carrière, à travers notre vocation, le succès. Vous allez voir ensemble que le succès et l'accomplissement et l'épanouissement de votre carrière n'est pas mal, n'est pas secondaire, n'est pas sans importance, n'est pas post-spirituel, n'est pas dissocié de votre vie spirituelle. Au contraire, que Dieu, une des découvertes que tu veux que tu fasses, qu'il veut que tu fasses, c'est que tu découvres qu'il veut te voir avoir du succès dans toutes tes entreprises et qu'il va t'enseigner comment. Alors, manquez pas ça, ça va être mon appel dans ma carrière. Ce matin, on regarde ensemble, à la base, simplement, mon appel comme chrétien. Chaque personne d'entre nous, mon appel comme chrétien. Luc, chapitre 9, versets 1 et 2. Découvrir notre appel, une promesse de découverte. Découvrir notre appel comme chrétien. Luc 9, 1 et 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il les appelle par leur nom. Dans plusieurs des chapitres, il va avoir la nomenclature des noms, parce que Dieu appelle chaque personne avec des dons différents, capacités différentes, expériences différentes, habiletés différentes, des dons dotés de Dieu pour accomplir une portion de son œuvre. Et il y a trois grands... On est tous appelés à des choses différentes, mais il y a trois grandes sphères de notre appel, qui est le simple appel chrétien, tout le monde ensemble. C'est pour ça qu'on est rassemblés, chacun avec notre portion. Il y a trois grandes sphères qui sont là. Prêcher le royaume, guérir ceux qui souffrent et libérer des captifs. Prêcher le royaume, guérir ceux qui souffrent de toutes leurs maladies, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, spirituelles, et libérer les captifs. Et c'est un rappel de la connaissance et de l'attention de Dieu et de l'appel de Dieu à une guérison holistique de chaque être humain. C'est Dieu qui, parce que chaque être humain, chacun d'entre nous, sommes esprit, corps et âme. Prêcher le royaume vient adresser les besoins de l'esprit. Guérir vient adresser la dynamique du corps, libérer les captifs de l'âme. Littéralement, c'est Dieu qui dit « Votre appel vous appelle. » Votre appel. L'Église chrétienne est née, elle est soudée, elle est rassemblée, chacun avec ses dons, afin d'aider, afin de soulager, afin de proclamer le message spirituel qui touche l'esprit, afin de guérir et afin de libérer dans chaque sphère émotionnelle, psychologique, dans notre volonté, dans nos émotions. Nous sommes rassemblés pour être l'extension, c'est ça notre appel, l'extension de la main de Dieu pour guérir, prêcher, guérir, libérer, prêcher, guérir, libérer, tous ensemble, une personne à la fois, l'accomplissement de Jésus. Dites amen, c'est ça notre appel. Nous ne sommes pas, c'est important de savoir ce que nous sommes, c'est ce qui n'est pas notre appel chrétien. Nous ne sommes pas là pour être une relique du passé. Nous ne sommes pas, notre appel n'est pas le religieux ou le rituel. Notre appel n'est pas de nous rassembler entre nous pour se faire du bien. Notre appel n'est pas réducteur. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais il y a une pensée que si je suis bien à Dieu, ça va réduire ma vie va être moins que... Au contraire. Notre appel est de rehausser la qualité et la potentialité de vie de chaque personne qui vient à Jésus. Notre appel n'est pas, l'appel de Dieu n'est pas de renoncer à la réalisation de rêves. Dieu n'est pas un tueur de rêves. Il est un ressusciteur de rêves et un accomplisseur de rêves pour que tu puisses réaliser les rêves, même au-delà de ce que toi, tu peux imaginer, que Dieu met encore et veut mettre encore en toi aujourd'hui. Notre appel n'est pas de refuser de réfléchir. Notre appel est le premier appel fondamental, quelles que soient les fonctions que nous avons, quelle que soit notre place dans la vie ou dans l'Église ou dans le ministère ou dans le service pour Dieu, nos dons, nos talents. Notre appel premier est à nous rapprocher de lui. Être proche de lui, être rapproché de lui afin qu'il puisse nous remplir, nous transformer, nous renouveler, afin qu'on puisse lui ressembler et afin qu'on puisse rejoindre des gens. Littéralement, c'est pour ça qu'elle dit, non seulement il a appelé les douze, leur a donné pouvoir pour prêcher, pour guérir et pour libérer. Et dans Marc 3, 14, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui voulaient le suivre et ils vinrent auprès de lui. Il en appela, l'appel, il vous appelle aujourd'hui, il m'appelle moi, il m'appelle toi, il t'appelle toi. Pas seulement ministère, comme chrétien, comme croyant. Il en appela 12 pour les établir. Pourquoi? Afin qu'ils soient, nous sommes appelés à être avant de faire. Très souvent, on met l'accent sur ce que j'ai à faire, parce que je devrais faire, parce que je pourrais. Tu es appelé à être. Et nous sommes appelés fondamentalement avant toute chose. Et du être découle le faire. Nous sommes appelés fondamentalement à être proches de lui. Il les a appelés pour être près de lui. Il les a appelés pour les avoir. Il y a certaines traductions, ce qu'on fait, l'exégèse du grec, pour les avoir près de lui, pour les avoir avec lui. Il les a établis. Ils vinrent auprès de lui, mais il les a appelés pour qu'ils soient proches de lui. S'approcher si nous voulons accomplir. Le connaître si nous voulons avoir les capacités. Sa parole et sa présence si je veux posséder. Il faut être avec lui si nous voulons nous emparer des promesses pour lui. C'est lorsque nous grandissons en sa présence que nous pouvons gérer le pouvoir, que nous pouvons être utilisés de Dieu. Je veux rappeler à tout le monde ici que ton appel premier, avant toute chose, qui rend le reste possible, quel que soit ce que tu penses que tu es appelé à faire, est à être en communion avec lui. À être greffé à lui, être avant de faire. En tout, là, fondamentalement, nous sommes seulement comme des cordes d'extension. Nous sommes branchés. Si nous sommes branchés à Christ, c'est de là que vient le pouvoir. Quel que soit l'outil, là, imaginez une table avec une série d'outils différents qui sont là. Quel que soit les dons que vous avez, les fonctions que vous avez, par vos pas. Quel que soit l'outil, il est efficace, il a un passé, il est capable de faire plein de choses. S'il n'est pas branché, il est sans pouvoir, il est sans capacité. C'est important pour des gens talentueux, pour des gens doués, pour des gens expérimentés, pour des gens qui ont une connaissance, pour des gens qui sont éduqués et pour des chrétiens de longue date. Te rappeler que quel que soit ce que tu penses que tu es appelé à faire ou que tu as déjà fait, la capacité à accomplir ce que Dieu t'appelle à faire vient du fait que tu es branché, vient du fait que tu es en lui. Le psalmiste a dit de cette façon. Le psalmiste dans le psaume 73 a dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » C'est ça qui est mon trésor, c'est là qui est mon trésor. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Les œuvres de Dieu vont être racontées par des hommes et des femmes qui sont branchés en lui, qui sont en lui, alors que en lui, sa force, sa grâce, l'extension de son amour, l'extension de son courage, l'extension de son pardon, l'extension de sa foi, l'extension de sa puissance. Dites amen à n'importe quel moment. Je vous annonce ce matin, vous êtes des câbles d'extension et nous sommes branchés à la source qui est en Christ. Quelqu'un devrait dire oui. Quand je lis un psaume comme le psaume 73, il dit « M'approcher de Dieu, c'est ça mon trésor. Puis c'est comme ça que je peux raconter tes œuvres. » Il y a toujours quelqu'un qui peut penser « Ah, ben ça, c'est sûr. Ça, c'est un super-héros de la Bible encore, là, que c'est juste lui et Dieu. Et il n'a jamais rien vécu, il n'a jamais eu de questionnement. » Il faut que vous lisiez le psaume 73. Asaph, qui est un musicien qui a écrit 11 psaumes, Asaph était un homme qui avait les mêmes combats que toi et moi. Savez-vous que le même psaume 73, il dit, dans ce même psaume 73, « Oui, je sais que l'Éternel est bon. » Mais moi, mon pied était sur le bord de fléchir, sur le bord de déraper, parce que je portais envie aux insensés, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il semble qu'ils ont le bonheur tout le temps, toujours heureux. Ils accroissent toujours leur richesse. Est-ce que c'est en vain? Tout le monde a déjà vécu ça. Est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur? Est-ce que c'est en vain que j'ai essayé de suivre Dieu? Est-ce que je fais tout ça pour rien? Et alors qu'ils s'éloignent et qu'ils s'éloignent de la présence de Dieu, alors qu'ils s'éloignent d'être branchés en Dieu, le doute se met à l'envahir, se met à l'étouffer. Il écrira un verset plus loin. Quand je rumine ça, quand je réfléchis à ça, quand je suis tourmenté par ça, quand c'est ça qui m'habite, la difficulté, le dilemme, la peur était tellement grande à mes yeux jusqu'à ce que je puisse être revenu, jusqu'à ce que juste pénétrer à nouveau, entrer à nouveau dans les parvis de mon Dieu, jusqu'à ce que je revienne me brancher en lui. Alors j'ai vu, alors j'ai dit, à quel autre air irais-je au ciel que toi? C'est toi sur la terre, mon seul plaisir est en toi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien et je vais raconter encore des œuvres parce que je suis branché avec toi. Quelqu'un devrait dire amen. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit l'épreuve que tu vis, quel que soit ce que ton appel est, c'est en lui ce matin que tu vas trouver. Bon, tu es appelé à être en lui avant quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas un appel, c'est notre simple appel chrétien. Moi, je suis un pasteur, mais je suis un chrétien. Vous devriez être content que je suis un chrétien. Comme pasteur, j'ai une partie de mon appel comme pasteur, j'ai des tâches, je prépare des messages, je prépare des enseignements, j'enseigne l'Institut biblique, je fais du leadership, je fais de la relation d'aide, je rencontre des gens, je prépare, j'administre, il y a plein de choses qui sont dans les tâches pastorales. Mais même lorsque je suis mon épouse est ici ce matin, lorsque je suis en vacances, je suis un chrétien. Je suis un chrétien en vacances. En vacances, ce n'est pas de vacances de Dieu. En vacances, tu es branché. Tu es branché quand même et Dieu veut se servir de toi. Il peut y avoir une semaine où je n'ai pas de sermon à préparer, où je ne suis pas en train de faire des comités, en train de faire des meetings, mais tu es encore, lorsque tu sors d'ici, tu es encore un chrétien. Tu es encore appelé à être branché en lui afin de raconter toutes ses œuvres, que Dieu se sert de toi, une corde d'extension pour son amour, son plan, ses desseins. Et ça fait en sorte que nous, en vacances, et Chantal, mon épouse, a un don particulier, beaucoup même plus que moi là-dedans, mais t'es dans la piscine en vacances. Par exemple, on est en vacances, c'est arrivé plusieurs fois, mais dernier voyage, on est en vacances ou le voyage d'avant, et puis on est sur le bord de la piscine, puis il y a un couple de Québécois qui arrive. Ah, vous êtes du Québec? Et oui, on se met à parler. Et les femmes sont dans la piscine, moi je suis sur le bord avec les gars. Alors, gars avec gars, on se met à parler du Canadien. On parle du Canadien, on jase de hockey. Et puis, à un moment donné, c'est court parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire avec le Canadien. C'est très court. C'est des conversations courtes. Puis là, j'étais un peu Canadien. Puis je regarde dans la piscine et Chantal parle. Ils ne se connaissaient pas 5 minutes avant. Chantal parle avec la dame. À un moment donné, la dame pleure. Elle pleure dans la piscine. Je dis, mais quoi qu'elle parle? Moi, je regarde le gars, j'ai fait le tour du Canadien. Lui aussi, il pleure quand je parle du Canadien, mais ce n'est pas les mêmes raisons. Et là, la dame sort de la piscine, c'est tellement beau. Qu'est-ce que cette madame-là a dit? Bon, je suis juste. Cette connexion, même des moments qui peuvent être un peu des moments de flottement. Une fois, on était en vacances et la mairesse de notre ville, avec son mari, qui lui est un député fédéral, les deux étaient au même hôtel que nous. Alors, on est dans la piscine, il y avait un couple d'amis avec eux. Alors, moi, on est dans la piscine avec le couple d'amis. Puis là, ah, vous êtes du Québec ou on est du Québec? Vous êtes de où au Québec? De Longueuil. Ah, nous autres, ça, on est de Longueuil. Ah, ouais. Puis là, j'attends la question, ça s'en vient. Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur, à Longueuil? Fait que là, je dis, si je veux avoir la paix, je dis, je suis un enseignant dans un institut associé à l'Université Laval. Et si je veux dire la vérité, je dis, je suis pasteur de l'Église Nouvelle-Vie. Et là, le monsieur dans la piscine crie à la mairesse à l'autre bord de la piscine, tout le monde est là. Hey, Caroline, c'est le pasteur de Nouvelle-Vie Longueuil. Elle est là, bonjour, bonjour, bonjour. J'étais en vacances, mais je suis un croyant. Mon épouse et moi, on était avec un couple d'amis récemment, puis une des cadres de l'hôtel, et puis on a appris à la connaître, on prie avec elle, et récemment, elle est venue se joindre à notre table un après-midi, on était en train de dîner, et à la fin du lunch, on parlait avec elle, on pensait, veux-tu qu'on prie avec toi? Oui, alors les gens sont autour, puis on est à la table discrètement, on est en train de prier avec elle, parce que nous sommes pas, c'est pas une job, c'est pas une fonction. J'étais en vacances, il y a quelques années, 2 ans, je pense, ou 3 ans, j'étais en vacances lorsqu'un soir, mon téléphone a sonné, j'ai vu le nom de mon ami Gary Wilkerson, le fils de David, et je me tire un peu à l'arrière et je l'entends dans toute sa panique. Il venait de sortir de chez le médecin un diagnostic de cancer. Le diagnostic, le pronostic était très sombre, très grave. Et on parle ensemble et on prie ensemble au téléphone. Et le lendemain, moi, j'écoutais une chanson de worship qui me bénissait beaucoup, qui disait « Ton amour me défend. Your love defends me. » J'envoie cette toune même qui m'écrit. Ah, écoute, je l'écoute en boucle tout le temps. Puis je prie pour lui. Et 2-3 jours plus tard, je prie le matin et j'ai vraiment une parole pour lui. Et j'y pense comme il faut. J'ai une assurance. Alors, je lui écris, j'écoute Gary, je priais pour toi. J'ai vraiment une parole que tu vas non seulement sortir de ça, mais dans très peu de temps, tu vas te retrouver aucune trace de cancer. Puis tu vas être, je t'ai vu, à un endroit où ce que tu es comme dans le cœur de ton appel, comme tu n'as jamais été auparavant. Et on avait la semaine dernière un meeting du comité d'administration de World Challenge mondial. Puis on m'a invité à siéger sur le comité, Gary, le président. Et lorsqu'il est arrivé le temps des dévotions, il a dit, je veux juste m'arrêter un instant. Il y a quelques années, alors qu'il était en vacances, urgence, j'avais appelé mon ami. Il n'a pas appelé un pasteur, il n'a pas appelé un clergé. J'ai pas dit, excuse-moi, Gary, je suis en vacances, je ne prêche pas cette semaine. Non, j'ai appelé mon ami Claude, puis il m'a donné une chanson, qui, et il s'est mis à témoigner ça, je l'avais presque oublié, moi. Puis là, il m'a donné une parole, puis il m'a dit, dans quel test, ça va être très court, et tu vas être libéré de ça, tu n'auras pas de traces de cancer, et tu vas être en plein cœur de ton appel. Il dit, aujourd'hui, je suis ici, 2 ans et quelques plus tard, j'ai plus de traces de cancer en moi, et je suis dans une saison de ma vie comme jamais auparavant. Afin de raconter toutes tes œuvres, je m'approche de toi, quelqu'un devrait dire amen. Oh, applaudissez ce qui... Applaudissez pas... Je sais, en ce moment, vous applaudissez pas une personne ou une situation, un témoignage. Vous applaudissez le fait que si chacun d'entre nous branché en Dieu, mon appel premier est d'être la corde d'extension de qui il est. Nous allons raconter des œuvres extraordinaires que Dieu va faire. Et là, vous devriez applaudir les œuvres que Dieu va faire. Mon appel, la première coupe, la coupe de découverte de notre appel. Mon appel comme chrétien et mon appel à la croissance. Quelles que soient tes fonctions, ton âge où t'es rendu, tes dons particuliers, nous sommes tous appelés, selon Jésus, à ce que lui appelle porter du fruit, à croître, à grandir, à progresser en lui. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Ça, c'est le premier appel. Branchez en lui. « Comme la branche ne peut d'elle-même porter du fruit, si elle ne demeure attachée à la vigne, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi et moi je demeure en lui, portera beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous êtes en croissance, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est seulement comme ça. La seule façon que nous sommes des disciples de Jésus, c'est alors que nous grandissons, que nous croissons, que nous portons continuellement de nouveaux fruits. C'est ainsi. Je dirais de cette façon. Il y a plusieurs expressions de nos différents appels. Les milliers qui sont ici, chacun appel différent. Il y a plusieurs expressions, mais il y a une seule, une exigence commune. Grandir, croître, progresser. Plusieurs manifestations, mais il y a toujours un mouvement vers le fruit. Plusieurs façons, mais il y a un seul critère, c'est le fruit. Si tu veux le glorifier, il faut grandir. Si tu dis aimer Christ, tu vas changer. Si tu veux accomplir l'appel, il faut être attaché. Il n'y a pas de conquête sans croissance. Alors, les questions de l'esprit pour moi et pour toi aujourd'hui. Dans la coupe de découverte ou de redécouverte ou de retour à mon appel, est-ce que je grandis? Est-ce que depuis que je connais le Seigneur, il y a un changement, il y a des sphères de ma vie qui changent, qui grandissent? Est-ce que j'ai été un chrétien qui n'a juste pas grandi, qui est resté au stade de bébé en couche spirituelle et qui n'a jamais changé? Est-ce que j'ai déjà changé, grandi en croissance, mais depuis une certaine saison, je suis en plateau? Est-ce que je suis en baisse dans ma croissance? Est-ce que je sais même dans quelle sphère de ma vie j'ai besoin de changer? Un chrétien mature, un chrétien alerte, dit « Seigneur, sonde mon cœur, montre-moi les sphères de ma vie où j'ai besoin de croître, où j'ai besoin d'être plus, où j'ai besoin de progresser, où j'ai cessé de porter du fruit, où je n'ai jamais porté, et j'ai besoin d'en porter plus. » Et si vous ne savez pas les sphères de vos vies qui ont besoin de changer, demandez à votre conjoint. Demandez à votre époux, elle le sait, lui, il le sait. Demandez à vos enfants, demandez à un ami qui est proche, qui vous aime, qui peut vous dire, cet aspect-là de ta vie aurait besoin d'être changé. Est-ce que, une autre question de Dieu, c'est, est-ce que je suis alerte? Est-ce que je pense même à ça? Est-ce que je suis alerte à la pensée? Est-ce que je grandis, moi? Est-ce que je porte un fruit? Est-ce que je porte plus de fruits dans ma vie? Est-ce que je suis conscient? Est-ce que je suis conscient que la croissance est un combat? Ce n'est pas quelque chose qui est automatique, ce n'est pas quelque chose qui arrive seul, qui a un élément d'être alerte, un élément d'être sur nos gardes. L'apôtre Pierre le dira de cette façon. 2 Pierre 3, 17 et 18. Voyez donc, vous bien-aimés, soyez avertis, ce matin, soyez avertis. Mettez-vous sur vos gardes, soyez alerte. Réveillez-vous, soyez alerte. De peur qu'entraînés par l'égarement du mal, des éloignés de Dieu qui vous entourent, vous ne veniez à décroître. Que vous ne veniez à décliner, à dégrader, à dégénérer, à dévier, à dégringoler de l'endroit où tu étais ferme et tu étais en croissance. Alors, c'est une question de l'esprit. Est-ce que je choisis un entourage dans ma vie qui me développe, me rapproche de Dieu ou me dégrade et m'éloigne de lui? On a tous des gens dans nos familles, autour de nous, des gens qui ont travaillé, tout ça, qui sont loin du Seigneur. On n'est pas isolés dans un monastère. Mais j'ai un choix à faire à chaque jour de ma vie. Seigneur, l'apôtre Pierre dit, un des facteurs, il faut que tu sois alerte, parce qu'un des facteurs, c'est que tu vas avoir un environnement, tu vas avoir une influence de ceux qui sont éloignés de Dieu, qui viennent gruger à tes convictions, gruger à ton cœur, gruger à tes désirs et à ta croissance, de peur que tu en viennes à décroître, à dégrader, à dégénérer, à dévier. Et l'apôtre Pierre dira même, faut que tu identifies, je vais vous donner des. Il y a des ennemis, il y a des dévoreurs, il y a des avorteurs de croissance. Et après plus de 35 ans de pastorat, je peux vous dire que ce que Pierre a dit il y a 2000 ans est absolument encore aujourd'hui dans ma vie, dans la tienne. Il y a des ennemis, il y a des poisons qui viennent tuer la croissance en moi. 1 Pierre 2, 1 à 4. Rejetez donc toute forme de malice, toute hypocrisie, toute dissimulation, l'envie et toute médisance, désirée comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous puissiez grandir, croître, porter du fruit, c'est ça mon appel, dans votre salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Toute forme de malice, d'amertume, de méchanceté, de ce qui est mensonge, de ce qui est hypocrisie, qui est de je dis être quelque chose que je ne suis pas, je suis d'une façon d'un côté, mais non pas de l'autre, de dissimulation qui vient voler la croissance. C'est une folie de penser qu'on dissimule quoi que ce soit devant Dieu. Mais il y a une dissimulation, bien sûr, de choses qu'on mange autour de nous, qu'on cache. Mais il y a aussi, alors que j'étais en prière et en étude, il y a une dissimulation qui tue la croissance, c'est la dissimulation de souffrance profonde, de blessures profondes, que plutôt que de dire, voici ce qui se passe dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de le remettre, j'empile, je réprime, je garde, j'enfonce, je dissimule à moi-même et à Dieu, à qui je ne peux rien dissimuler, la souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, ne dissimule pas, viens lui porter ce qui fait mal, viens lui porter ce que tu ne voyais même pas en toi-même et laisse-le être le Dieu qui vient, le prince de paix, faire son œuvre de paix en toi. Quelqu'un devrait dire oui. La malice, la dissimulation, l'envie, la jalousie, l'envie de l'appel ou de la vie de quelqu'un d'autre vient tuer la croissance. La médisance des paroles de mort envers d'autres vient tuer la croissance en nous. Est-ce que je suis prêt à voir, à discerner ses ennemis? Est-ce que je suis prêt à me repentir afin de reprendre un cœur de croissance aujourd'hui? Est-ce que je désire vraiment changer? C'est là que l'apôtre Pierre dit quelque chose qui est souvent mal compris. Il dit que, alors, lorsqu'il fait, tous les ennemis sont là, mais vous, afin que vous puissiez grandir, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, afin que tu n'arrêtes pas de grandir. Et ça a été souvent interprété comme, le petit lait. Nous, on est des vieux chrétiens, gloire à Dieu, on n'est pas au petit lait. Il ne parle pas ici de seniorité chrétienne, il parle de soif. Il ne parle pas d'ancienneté. Il parle de s'approcher de Dieu. Il ne parle pas de gradation. C'est combien de versets bibliques que tu connais? Il parle de grandir. Il n'est pas en train de parler d'un élément plus haut ou plus bas de doctrine. Il est en train de dire, est-ce que tu désires grandir et changer et croître comme un bébé désire son lait? Si vous avez un doute, si vous êtes peut-être, ça fait trop longtemps que vous n'avez pas vu un bébé qui a soif, si vous avez un doute sur à quel point le bébé désire son lait, les pouponnières vous attendent. Si tu dépasses de 2 minutes, si tu dépasses de 3 minutes, il y a des petites têtes gros comme ça qui font un cri. Combien j'ai entendu un bébé qui crie, qui a soif? Il est en train de dire que ça fasse 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu marches avec Dieu. Il y a quelque chose en toi qui doit monter et dire, Seigneur, comme le bébé a soif de son lait, j'ai soif de grandir, j'ai soif de changer, j'ai soif que tu viennes faire ton œuvre en moi. Quelqu'un va dire amen. Littéralement, cette dynamique de besoin de grandir. Et je termine avec ceci parce que l'encouragement que je trouve, c'est que lorsque je lis les évangiles, je m'aperçois à quel point les disciples avaient besoin de grandir. Nous, on les regarde comme des héros qui ont accompli. Puis c'est vrai, ce groupe d'hommes qui ont été appelés à s'approcher de lui, à croître en lui, avaient besoin de grandir. Ils étaient tellement imparfaits. Ils ont changé le monde et changé l'histoire. Et c'est fascinant parce qu'ils écrivent, les 4 évangiles sont écrits 20 ans, 30 ans par la suite. Et ça différencie les écrits de la Bible de beaucoup d'écrits de légendes de l'époque parce qu'ils ne se présentent pas comme juste des héros, comme des super-héros, des Avengers sans peur, comme tous les autres récits de l'époque, les Césars de l'époque. Ils écrivent à quel point ils avaient besoin de grandir. Juste quelques vignettes, à quel point, on va s'identifier à eux, à quel point ils avaient besoin de grandir. Luc, chapitre 9, verset 49, Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui libère les captifs en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Dites à quelqu'un près de vous, ils avaient besoin de grandir. Grandir dans ta vision, grandir. Ils étaient petits, ils étaient méprisants de d'autres, ils étaient exclusifs, ils étaient avec notre église ou personne d'autre, il y a juste nous qui comptent. Ils étaient aussi extrêmement limités, réducteurs dans la vision du cœur de Dieu, comme une large portion du corps de Christ aujourd'hui qui dit, à moins que tu nous suives, on ne t'aidera pas. À moins que tu nous suives, on ne te nourrira pas. À moins que tu nous suives, on ne te vêtira pas. À moins que tu nous suives, nous avons fondé toute la vision de mettre sur pied un organisme comme Action Nouvelle Vie et aider à le soutenir, et aider à soutenir tous les ministères affiliés à Action et départements affiliés à Action Nouvelle Vie sur le fondement que nous ne faisons pas de prosélytisme, nous ne faisons pas de favoritisme. Nous allons t'aider, même si tu ne nous suis pas, parce que Jésus est mort pour ceux qui ne le suivent pas. Et si nous sommes la réflexion de son cœur et de son amour. Les disciples avaient une mauvaise journée. Ils avaient besoin de grandir. On est dans Luc chapitre 9. Quelques versets plus tard, premier, commence la journée en disant, il y en a un qui délivrait des gens en ton nom. On l'a fait taire parce qu'il ne vient pas à notre église. Deuxième gaffe de la journée. Arrive dans un village de Samaritains et les Samaritains ne peuvent pas les recevoir. Les disciples Jacques et Jean. Les fils du tonnerre, nous dit un autre, c'est comme ça qu'il est surnommé, nous dit un autre des évangiles. Voyant cela dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animé. » Est-ce que je peux dire ceci? Ce texte nous rappelle qu'on peut suivre Jésus, marcher avec Jésus, mais dans certains aspects de notre vie, moment de notre vie, décision de nos vies, ne pas être animé de son esprit. D'être influencé par un esprit qui n'est pas de lui. Alors peut-être que ça fait des années que tu n'as pas prié ça, quel que soit ce que tu fais dans la vie. Ton appel, mon appel, la coupe de la découverte de mon appel, c'est de dire à chaque jour, Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui d'être animé. Je suis capable d'être animé de ma chair, être animé et influencé par toutes sortes d'attitudes, esprits, décisions qui ne sont pas de toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens m'animer de ton esprit. Ton esprit, le fruit de ton esprit dans la paix, dans l'amour, dans le pardon, dans la grâce, dans la patience, dans la maîtrise de moi. Je veux être animé de l'esprit de Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Une dernière, j'en ai plusieurs, mais je n'ai pas le temps. Alors, une dernière vignette, elle est hallucinante. Matthieu 19, 13. Alors, ils avaient besoin de changer, ils avaient besoin de grandir, toi aussi, moi aussi. Alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains. Ça devrait être assez simple et qu'il prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Ben voyons donc. Petits-enfants qui viennent pour être touchés, priés, touchés par Jésus. « Hé, petite fille, va-t'en de là, sac ton camp, va-t'en d'ici, toi. Voyons donc si Jésus va, si il y a le temps de prier avec des enfants. » Est-ce que vous me suivez? Tu as le goût de dire aux disciples, « Ben voyons donc, vous êtes donc bien loin du cœur du Seigneur. Comment est-ce qu'ils peuvent être si perdus? C'est regrettable, c'est impardonnable. Vous avez besoin de changer puis de grandir. Vous êtes tellement dans le champ. Ça n'a même pas d'allure, Jésus, les petits-enfants. » C'est tellement loin de nous, tout ça, pourquoi tu nous en parles? Non, non, c'est un portrait prophétique d'une église qui a arrêté ou qui n'a jamais grandi au diapason du cœur de Dieu. En 2019, c'est une foi chrétienne qui dit, nous autres, on veut être avec Jésus, mais on ne veut pas être dérangés. Je suis avec Jésus, mais je ne veux pas être dérangé. Non, nous sommes là pour être dérangés par ceux qui ne le connaissent pas et nous donner à eux et être l'extension de son amour. C'est un portrait de l'Église chrétienne, d'une certaine foi chrétienne pour adultes, où il y a très peu d'intérêt, très peu de temps, très peu de bénévolat, très peu d'engagement envers les enfants. Nous autres, on est bénis dans la présence de Dieu. Bénédiction par-dessus bénédiction. Savez-vous, j'étais à un rassemblement de leaders de mouvement récemment et ils disaient, il y a une épidémie en ce moment d'église qui n'offre plus aucune pouponnière, aucune garderie, aucune classe pour les enfants parce que personne ne veut être bénévole, tout le monde veut être béni. J'aimerais dire merci Seigneur pour un cœur dans cette église. Merci pour la ligue. Merci pour les leaders. Merci pour la Super League. Merci pour toi qui donne ton nom et s'implique pour les enfants. Quelqu'un devrait dire oui. Ah, c'est tellement loin de nous. Non, c'est une représentation prophétique de disciples qui, par leur action, repoussent. Et ils les repoussèrent. Repoussent littéralement les enfants, les éloignent de Jésus. Il n'y a rien qui éloigne plus de Jésus des gens qui ne le connaissent pas que des chrétiens qui se disent disciples, mais dont la vie est une contradiction avec le message qu'ils proclament. En d'autres mots, dont la vie, dont, expression québécoise, les bottines ne suivent pas les babines. Je dis, ma vie est... Il y a plusieurs personnes au fil des années que je souhaiterais qu'ils arrêtent de parler de Jésus. Je souhaiterais qu'ils arrêtent de témoigner. Ta vie repousse des gens. J'ai besoin encore aujourd'hui de dire, Seigneur, fais-moi croître, fais-moi grandir dans mon sens de responsabilité que par ma vie, j'attire des hommes et des femmes à toi et je sois une épée vivante par tous les hommes. Ce texte-là, Jésus, ah, laisse faire les enfants, représente cette Église, cette foi chrétienne si loin de son cœur qui pense seulement en termes de nous-mêmes, bénis entre nous sans aucun réel engagement, passion, sacrifice, cœur, générosité pour les autres, pour les enfants, qu'ils soient de notre ville ou les enfants du monde. Les disciples avaient besoin de redécouvrir leur appel chrétien, leur appel à la croissance et à changer. Puis ce qui m'encourage, c'est qu'ils avaient besoin de changer, mais ils ont changé. Les Actes des apôtres nous disent, et ça, ça me bénit tellement, je termine avec ça, nous dit que dans Actes chapitre 17, voici les chrétiens arrivent après la résurrection, et ces hommes, ces femmes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils ont passé d'être ces gens fermés qui ne voyaient pas le cœur de Dieu, qui est un empêchement presque, mais alors qu'ils ont crié, Seigneur, change-moi la puissance de la résurrection en eux. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour moi. Nous sommes appelés, mon appel chrétien est à la croissance et à communiquer. On est appelé à bénir, on est appelé à bâtir et on est appelé à bouleverser ce monde de ténèbres avec la lumière de Jésus. Je n'ai pas le temps de le prêcher ce matin, mais je termine avec ce verset extraordinaire qui dit « Il y avait un homme qui était envoyé de Dieu, son nom était Jean, et c'est Jean-Baptiste. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, Jésus est la lumière, afin que tous puissent croire par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui vient dans le monde, éclaire tous les hommes. » Il lui donne le pouvoir de devenir. Notre appel à être chrétien est un appel à la croissance, à la communion avec lui, à la croissance et un appel, littéralement, à communiquer une lumière. Et c'est fascinant de ce qu'il dit, nous ne sommes pas la lumière. Nous ne sommes pas là pour présenter une nouvelle vie, pour présenter une église, pour présenter un mouvement d'église, nos dons, notre charisme, nos talents. Nous sommes là pour simplement refléter la lumière de Jésus. On est la lune, c'est lui qui est le soleil. On fait juste refléter sa lumière à lui. Simplement, il n'est pas la lumière. Je voudrais peut-être vous donner cette illustration. Il n'y a pas de lumière en nous. On ne produit pas la lumière, on fait juste la refléter par notre communion avec lui. On est appelé, chaque personne ici, à communiquer la lumière de Dieu. Tu n'as pas la lumière en toi-même, tu n'as pas la lumière dans ton religieux, tu n'as pas la lumière même si tu viens à l'église chaque semaine, si tu n'es pas en communion avec lui. Je fais juste refléter la lumière duquel il me remplit. Il y a plusieurs années, l'Église m'a donné une montre en cadeau pour le 25 ans de ministère. Super belle montre. Et c'est une montre dans le petit livre qui vient avec, dit qu'elle brille dans le noir. C'est une montre que tu peux illuminer qui est dans le noir. Et si je prends cette montre et que je la mets dans un placard, je ferme la porte du placard et après ça, j'ouvre pour voir ce qui se passe. Voici une photo de ma montre dans le placard. On ne voit rien. Parce qu'elle n'a aucune capacité de produire la lumière. Mais savez-vous ce qui se passe avec une montre comme celle-là? Et si je fais juste faire 5 secondes de mettre une lumière sur elle, elle reçoit la lumière et la même montre par la suite. Bon, maintenant, je dois faire une correction parce que c'est une illustration. Moi, je vous parle de ma montre. J'ai dit au gars, voulez-vous mettre une image de montre? Ils ont mis une image d'une montre Rolex sur l'écran. Avant que les courriels ne rentrent, je veux dire, ma montre n'est pas une montre Rolex. Alors, ne partez pas à les dire que Pasteur Claude se promène avec une montre Rolex. Je suis en train de dire, nous ne sommes pas la lumière. En nous-mêmes, on n'est pas la lumière. Mais branché en lui, je peux refléter celui qui me remplit de sa lumière. On était à un événement, mon épouse et moi, vendredi passé, puis il y avait une jeune femme qui était là, qui était enceinte, et elle était à quelques jours d'accoucher. C'est vendredi, puis sa date, c'est mercredi. Elle était à quelques jours d'accoucher. Et comme à chaque fois qu'une femme enceinte, comme ça, souvent tu entends l'expression, puis c'est vrai. Elle a dit quelques mots, et puis elle était là, et elle était rayonnante, elle était resplendissante. Et souvent, on dit ça des femmes enceintes. Les femmes enceintes, they glow. elle brille. Puis moi, elle a parlé, puis c'est tellement beau comment ce qu'elle a fait. Et puis tout à coup, j'étais allé à la féliciter, puis je m'en allais, puis il y a quelqu'un qui dit, « Oh, OK, belle, elle brille! » Des femmes enceintes qui disent, « Laisse faire, j'ai fille enflée, laisse faire, je brille. » Je veux dire à toutes les femmes enceintes, et tout le monde dira « Amen » et applaudira, « Vous brillez! » Voulez-vous applaudir les femmes enceintes? Je sortais de la petite salle et je suis tout le temps en train de penser à mon prochain message. Je sortais de la petite salle et je pourrais penser à mon message. Nous ne sommes pas la lumière, mais nous. Et elle brille. She's glowing. Elle brille. Et j'ai simplement eu cette pensée. Elle brille parce qu'elle a eu une relation d'intimité et que la vie grandit en elle. Je vais briller. Tu vas briller seulement si j'ai une relation intime avec Dieu. Et que je laisse sa vie être portée en moi. Et lorsque je porte la vie, je communique la lumière. Voyant, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils avaient prié, quelqu'un était guéri, ils essayaient de les faire taire dans les actes. Parce qu'ils les regardent, c'est qui ça, ces gens-là? Comment ça se fait que... Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils avaient été en contact avec la lumière, une relation intime avec Dieu. C'est mon appel chrétien d'être en communion avec lui, d'être en croissance pour lui et de communiquer la lumière de la vie qu'il me donne. Je veux le faire publiquement ce matin pendant que les musiciens s'approchent parce qu'on a eu un moment qui était beau vendredi. Vendredi soir, nous avons fait la dédicace d'une grande salle au 2159 parce que le 2159 est sous Action Nouvelle Vie et... Nous avons fait une dédicace, il y avait plein de gens qui étaient là, où on va maintenant, si vous allez au 21, vous allez voir que la grande salle est appelée maintenant le Square Philippe des Hôtels, pour commémorer, pour se rappeler, pour honorer la mémoire d'un homme, Philippe des Hôtels, qui a été le président du conseil d'administration, des photos de Philippe qui vont apparaître, président du conseil d'administration d'Action Nouvelle Vie pendant 15 ans, il était à Nouvelle Vie avec nous ici. Pendant 20 ans, j'ai demandé à son épouse, j'ai écrit à son épouse, je veux dire un mot sur Philippe dimanche matin, parce que d'une manière très imparfaite, parce qu'on est tous imparfaits, mais Philippe incarnait le message que j'essaie de vous communiquer ce matin. C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui est arrivé à l'église Nouvelle Vie, avec aucun, tout l'arrière-plan magique, ne connaissait pas ça. Et c'était un monsieur cartésien, un homme d'affaires, un entrepreneur de haut niveau. Et lui, là, il avait horreur de tout ce qui était légaliste religieux. C'était pas un mystique, c'est pas un émotionnel, c'est pas rien de tout ça. Il est arrivé ici en reconnaissant. Mais dès les débuts, on a vu cet homme-là juste s'attacher à Dieu, juste s'approcher de Dieu. Il n'y a pas un dimanche qu'il n'était pas là avec son épouse Réa qui est ici ce matin. Réunion de prière, ils sont là. Année après année. Rassemblement d'hommes, il est là. Réunion de 24 heures de jeûne et de prière pour des hommes avec toute son horaire occupée. Philippe était là parce qu'il grandissait, il voulait grandir. J'ai vu cet homme-là devenir, il y avait des choses, homme d'affaires la semaine qui brasse plein de grosses entreprises et pendant au moins une douzaine ou quinzaine d'années, le dimanche, à tous les dimanches, était dans le stationnement à l'extérieur, hiver comme été, pour accueillir des gens. Je veux servir, moi. Je veux être là, je veux servir. C'était quelqu'un qui est un homme de big picture. Tu es capable de voir les grandes choses de la vie, les grands sujets. Si j'ai appris des phrases de lui, c'est un entrepreneur qui a fait plein de grandes transactions puis nous a aidé dans tellement de choses avec l'Église, avec Action Nouvelle Vie, l'amener au niveau qu'il est devenu. Et à un moment donné, on avait un gros projet devant nous. Je l'ai entendu pour la première fois dire une phrase qui est restée avec moi. « Hey, les gars, je trouvais ça tellement gros, Claude. Parce que Claude, sais-tu comment est-ce qu'on mange un éléphant? » Non, Philippe, comment est-ce qu'on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Et un homme de big picture, il avait plein d'affaires que personne ne savait de lui. Des fois, je l'apprenais un mois après, six mois après, un an après. C'est quelqu'un qui pouvait brasser des affaires comme ça toute la semaine, puis arriver, là, tu pouvais aller au Costco un jeudi soir et le voir en train de pousser un panier de quelqu'un et aller chercher une épicerie pour un homme qui essaie de sortir de la drogue. Il y a un monsieur, un bénévole, quelqu'un qui travaille, qui est à Action de vie depuis des années avec des très petits moyens, qui un jour m'arrive, parce que toi, viens voir dans une petite auto. J'ai un auto maintenant. Wow, t'as un auto. Félicitations, super belle ta petite auto. Puis je m'en vais de là en me disant, comment est-ce qu'il peut avoir une auto? Il n'y a pas de revenus. Comment est-ce qu'il peut avoir une auto? J'ai appris des années plus tard que c'est Philippe qui avait acheté une auto. Puis qui peut avoir son auto. Personne ne le sait, personne ne le voit, personne ne le... Et lorsqu'il était dans sa le cancer a été diagnostiqué, que le marteau tombe et qu'il pourrait juste se tourner sur lui-même. Qu'est-ce qui va m'arriver, mon futur, etc. C'est à ce moment-là qu'il avait les yeux, le cœur ouvert et que c'est lui qui était l'initiateur qui nous a fait avoir le bâtiment, Action Nouvelle Vie, pour le 2159. Il a négocié, il l'a prié. J'étais avec lui, Chantal et moi, on était avec lui. Avec sa famille, les dernières heures. Et il glissait, entrait dans la vie, sortait un petit peu, pas coma, mais perdait connaissance, revenait. Et lorsqu'il revenait, il y avait des choses qui revenaient en mémoire. Il disait, viens ici, disait à sa femme, oublie pas, là, telle personne, j'y donne tel montant par mois, et telle personne. Puis tu ne pourras pas te donner ça. Puis tu sais, dis aux enfants qu'avant, mais lorsque je vais partir, je veux qu'ils continuent à... Je parle de quelqu'un qui n'était pas parfait, mais quelqu'un qui s'est branché en Dieu et quelqu'un qui a accompli son appel et quelqu'un qui a dit, « Seigneur, tu m'as appelé à faire quelque chose et je veux croire, je veux progresser, je veux grandir en toi. » Je prie parce que je regarde toute une génération qui est ici, de plus jeunes serviteurs, de plus jeunes entrepreneurs, de plus jeunes hommes et femmes, de tous les arrière-plans possibles et aussi à des chrétiens qui, eux, sont là de longue date et peut-être tu as reculé un peu. Je prie au nom de Jésus. Je n'élève pas un homme, mais il y a un exemple qui a été donné. Et je dis, Seigneur, saisis-nous à nouveau afin que l'on puisse être des personnes qui vont dire, je me branche en toi à nouveau afin de grandir à nouveau, de croître à nouveau et de communiquer ta lumière à nouveau dans le nom de Jésus. Je vais applaudir ce que Dieu pourrait faire, les œuvres que Dieu pourrait faire. Alors ce matin, je vous invite à vous lever avec moi dans sa présence. Si ce message-là fait quoi que ce soit pour vous, moi, ce message-là, il me met sur mes genoux. Je veux grandir en toi, Seigneur. Nous voulons communiquer ta lumière. Je ne peux rien faire si je ne suis pas branché en toi. Et ce matin, mon Dieu, c'est quelque chose qui a arrêté de grandir ou qui a arrêté de croître. Je veux te l'offrir. Je veux te le donner. C'est quelque chose qui a arrêté ma croissance. Ce matin, je veux m'offrir à toi. Si je me suis éloigné ce matin, je te suivais de loin. Ce matin, je veux revenir à toi. Je veux faire le plein de ta lumière, de ta vie en moi. Je veux être en relation intime avec toi afin que tu fasses grandir la vie en moi et que je puisse briller pour toi. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Donne-moi un cœur tout entier, complètement dévoué. Est-ce que je peux entendre un peuple qui s'offre à lui ce matin? Seigneur, nous voulons boire la coupe de la découverte de ton appel sur nos vies dans le nom de Jésus. Donne-moi un cœur tout entier. Est-ce qu'on peut le prier ensemble?